Je demande à mes parents de m'envoyer des pommes de terre cuites à l'eau pour mettre dans ma soupe. Elles n'arrivent pas en très bon état, mais peu importe. Elles me permettent d'améliorer la qualité nutritive de la soupe du camp et d'apaiser ma faim. Et puis, une pomme de terre, même des fraîchies, vaut mieux qu'un bon rutabaga. Au point de vue sanitaire, c'est la toilette collective que nous faisons au rez-de-chaussée. Une rangée de robinets, les uns à côté des autres, comme on en voit parfois dans les écoles. Il y fait froid et l'eau est glaciale. Le passage à la toilette joint parfois l'utile à l'agréable, car il nous permet de rencontrer d'autres détenus. C'est ainsi que j'ai rencontré la sœur du président Doumer, ancien président de la République, assassiné en 1932. Une femme charmante, très gaie. Elle a été arrêtée, je crois, pour avoir ricané au passage d'officiers allemands. J'ai aussi rencontré la sœur du général Giraud, évadée d'Allemagne et travaillant aux côtés du général de Gaulle à Alger. Cette femme est très réservée et parle peu. La routine. Certes, la vie au camp est assez monotone, mais elle est de beaucoup préférable à la rigueur des prisons dans lesquelles je viens de passer. L'après-midi, nous avons généralement une promenade. Elle se passe de façon différente des promenades solitaires de camp ou de frêne. Tout le monde sort. Il n'y a pas d'exclusive. Nous marchons en file indienne autour d'une grande cour, sous le regard des surveillantes postées au centre. Souvent, Roquet vient les rejoindre. Et comme à son habitude, il vocifère. Nous en ignorons la raison, mais peu importe. D'ailleurs, la connaît-il lui-même? Si ce n'est qu'il pense ainsi faire preuve d'autorité. Nous subissons cette avalanche verbale stoïquement, sans rien dire. Les surveillantes font de même. On nous confie de petits travaux. Par exemple, plier et encoller des enveloppes et des sacs en papier. C'est tout un art, mais l'habitude aidant, je finis par bien m'en sortir. Vers la fin de ma détention, je suis envoyée chez le directeur pour faire le ménage, toujours dans l'enceinte du camp. J'ai surtout affaire à sa femme et à sa mère. On pourrait penser, je le pense aussi, que cette « promotion » entre guillemets me donne quelques avantages. Il n'en est rien. Je retourne, chaque jour, prendre mes repas à la prison. Donc, pas d'amélioration du menu. Le temps passant, le printemps arrive. Les quelques arbres du camp pointent leurs bourgeons vers un ciel devenu plus clément. Voilà qui nous donne des idées de liberté. D'autant plus que normalement, ma libération est proche si l'on se fie au calendrier. Mais j'ai appris à être prudente. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et j'en suis encore où tu l'auras. Mais tout de même, les jours qui viennent vont me paraître très longs. Chapitre 8. Enfin libre. Libre! Après 17 mois de captivité faite d'isolement, de brimades, de coups, de privations, d'humiliations. 17 mois où les maîtres du moment me signifiaient par leur attitude et leurs propos que je leur étais inférieur, puisque j'étais la vaincue. Libre enfin, quand les portes du camp se referment derrière moi. Mais cette fois, je suis du bon côté. Je suis dehors. Libre d'aller à droite, à gauche, où je veux. Enfin. Pour le moment, je me dirige vers la gare. Je prends le train pour Paris-Est. Dans le compartiment, il n'y a pas de gendarmes. Je ne suis plus en transit, sous surveillance. Je suis libre, libre! Deux dames bien pacifiques sont assises près de moi. Je parle un peu avec elles. J'ai besoin de parler, de raconter. Je leur dis d'où je viens. Elles ouvrent de grands yeux étonnés. Elles ne savent pas. Est-il possible que les Français ne sachent pas? Cela me paraît invraisemblable. Elle me pose des questions. Un réflexe de prudence ressurgit. On ne se débarrasse pas si facilement d'une attitude de méfiance, de mutisme, acquise depuis des mois. Je reste évasive dans mes réponses. Quand donc pourrais-je laisser de côté cette prudente réserve et dire ce que j'ai enduré et combien je suis éprise de liberté? Le moment n'est pas venu. Je suis libre, certes, mais en liberté conditionnelle. Arrivée gare de l'Est. Je me renseigne. Un employé me conseille de coucher dans la gare, où des lits sont prévus pour les voyageurs restés sur le quai, faute de train. On nous donne à manger. Une salle fait office de dortoir. Beaucoup de femmes et d'enfants. L'organisation et la gestion de ces services ont été confiés à des jeunes des chantiers de jeunesse de Pétain. Ils veillent à ce que chacun trouve une place, ce qui est mon cas. Tout dans leur attitude et leurs propos laisse penser qu'ils sont pro-allemands. Quand je dis à l'un d'eux d'où je viens, il me répond « Maintenant, vous avez compris. » La liberté peut avoir, parfois, des relents d'amertume. Après une nuit presque blanche, j'étais trop excitée pour trouver le sommeil. Je prends le métro direction Gare Montparnasse. Je trouve le métro formidable. Arrivé Gare Montparnasse, je prends le train pour Dreux. Les wagons sont bondés. Je dois rester debout dans le couloir. Mes parents et quelques amis, prévenus de mon arrivée par un télégramme, m'attendent à la gare. Rire, pleurs, nous sommes fous de joie. Enfin, je retrouve les miens. Mes amis, la vie va recommencer. Sans elle. Sans elle, c'est vrai. Edmond et Gisèle, que sont-elles devenues? Dès le lendemain, j'écris aux parents de Gisèle, pour savoir. Elles ont été déportées en Allemagne. Elles s'y attendaient. Considérant, dans leur ignorance de la situation, que c'était un moindre mal, elles se préparaient à affronter cette épreuve avec courage. Sans doute sont-elles vivantes. Elles vont bientôt revenir. La griserie de mon retour à la liberté s'est tempérée, émoussée. De nouveau, à tort ou à raison, je suis sur mes gardes. Une vieille habitude. J'ai l'impression et la quasi-certitude que je suis suivie dans la rue. Et puis, ils sont toujours là. Le bruit de leurs bottes résonne toujours sur les pavés de la ville. Leurs officiers nous toisent avec arrogance. Je me rends compte que je ne serai vraiment libre que lorsque nous aurons été délivrés par les armées de la liberté, et surtout, surtout, quand mes deux amis seront revenus. Alors, ce jour-là seulement, je serai libre. Toutes les trois, nous serons libres. Il arrive que, parfois, la liberté se voile du deuil. Gisèle est revenue, toujours aussi volontaire, déterminée. Edmond Robert la Vaillante, l'indomptable Edmond. Edmond qui, lors des interminables appels par les matins glacés, sur la place du camp, avait l'audace de sortir des rangs et clamer son refus. « Vous n'avez pas le droit de nous traiter ainsi. Vous n'avez pas le droit. Nous ne sommes pas des chiens. » Elle payait cette audace par des sévices, par des punitions, par des coups qui, s'ils laissèrent intacte sa résistance morale, vinrent à bout de sa résistance physique. Ses parents l'attendaient, s'apprêtant à fêter son retour. C'est alors qu'on l'a rapatriée à bord d'une ambulance, qu'arrivait en vue des flèches de la cathédrale de Strasbourg, Edmond rendit le dernier soupir. À ma mère, à Edmond, à mes camarades morts au combat, c'est en pensant à elle, à eux, que ces pages ont été écrites. Saint-Lô, le 20 septembre 1996. Germaine Terrasson, Germaine Guérin au moment des faits. Françoise dans la résistance.